Le magazine des Nations Unies. L'accord cadre d'Addis Abeba, évalué à New York au Conseil de sécurité en mars des assises de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU. Le chef de la MONUSCO, fin mandat, a participé à cette évaluation. Et en marge également de la Journée internationale de la non-violence, Martin Kobler prône pour une paix durable en RDC. C'est la grande actualité de la semaine. Autre actualité à suivre, l'UNICEF poursuit sa campagne d'inscription gratuite des enfants des 6 à 7 ans en première année primaire. Après Kinshasa, c'est l'étape de l'ex-province du Bandundu, les magazines des Nations Unies dans la suite de l'UNICEF. Enfin, l'humanité compte aujourd'hui plus de 893 millions de personnes de troisième âge selon le FNUAP, Fonds des Nations Unies pour la population. Elles seront 2 400 millions en 2050. L'ONU a décrété le 1er octobre la journée internationale des personnes âgées pour reconnaître leur poids démographique et leur contribution dans la société. Dans ce magazine, vous suivrez un expert du FNUAP Bureau RDC. Voilà tout pour le sommaire.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et à toutes. La situation de la République démocratique du Congo était encore à l'ordre du jour lors de l'évaluation en début de semaine à New York de l'accord cadre d'Addis Abeba. Les 10 pays signataires étaient présents. Martin Kobler, représentant spécial fin mandat du secrétaire général de l'ONU, y était aussi. Au micro de nos confrères de la radio des Nations Unies à New York, Martin Kobler nous résume ici le point saillant à l'issue de la séance de travail.
C'est le mécanisme de suivi des obligations régionales. Alors ça veut dire où nous sommes avec le combat contre les groupes armés, où nous sommes avec la question de non-interférence, où nous sommes avec les FDLR, avec les ADF, qu'est-ce que les États membres, y inclut la MONUSCO naturellement, qu'est-ce que nous avons fait pour vraiment mettre fin aux groupes armés. C'est toujours la question ici, la coopération entre la MONUSCO mais aussi les FRDC, parce que les FRDC, l'armée congolaise, ils sont en charge de combattre les groupes armés, mais nous avons aussi un mandat offensif de neutraliser les groupes armés. Nous sommes bloqués à l'instant dans la coopération avec les FRDC par des raisons diverses, et il faut résumer la coopération avec l'armée congolaise parce que c'est l'unité qui fait la force pour vraiment mettre fin aux exactions, pour mettre fin aux violations des droits de l'homme à l'est de la République.
Par ailleurs, toujours à partir de New York, Martin Kobler a lancé un message prônant la non-violence pour une paix durable en RDC. Un message lancé à l'occasion de la Journée internationale de la non-violence célébrée chaque 2 octobre de l'année. Je suis profondément préoccupé par l'accroissement du nombre de cas de violence à travers le pays. Je lance un appel à l'intention du gouvernement congolais pour qu'il s'attaque aux causes profondes de la violence et pour assurer un processus politique inclusif qui respecte les opinions et les intérêts de toutes les communautés en République démocratique du Congo, a conclu le représentant spécial dans son message.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
La RDC s'est lancée depuis le mois d'août dernier dans un processus d'élaboration d'une stratégie nationale de la promotion de PME congolaise. Nous revenons encore sur un entretien qu'un expert de PNUD RDC avait accordé au magazine des Nations Unies sur le concept PME, petites et moyennes entreprises, et le voie préconisée pour leur développement en République démocratique du Congo. Stéphane Amani est conseiller en microfinance, emploi et secteur privé au bureau PNUD RDC à Kinshasa. Il s'était entretenu avec Honoré Missenga Kalala.
Stéphane Amani, bonjour.
Bonjour.
Le PNUD de votre agence collabore avec le ministère des PME et classe moyenne en vue de contribuer à la promotion de petites et moyennes entreprises congolaises. Un atelier a même eu lieu à Kinshasa le 12 août dans cet objectif. D'abord, qu'est-ce qu'une PME, petite et moyenne entreprise?
Une PME, c'est une entreprise qui est engagée au quotidien auprès des communautés à offrir de biens et services. On la traite de petite ou moyenne selon sa taille et très souvent on utilise certains critères pour apprécier cette taille. Très souvent on pense au nombre de personnes employées parce que les petites et les moyennes entreprises utilisent peu d'agents que les grandes entreprises ou alors au niveau de leur chiffre d'affaires?
Parlons de la taille, ces entreprises petites ou moyennes emploient à peu près combien d'agents?
Oui, selon la charte de PME qui a été signée, on pense à 15 staff. Mais il faut dire que cela varie selon les contextes d'un pays à un autre. Ce qui est petite entreprise ici peut être considéré ailleurs comme micro-entreprise. Tout simplement, il est question de le considérer dans le contexte local.
Oui, dans le contexte convenu.
Le charte, tu dis, le détermine à environ 15 employés.
Au minimum ou maximum?
Maximum. Et donc déjà au-delà, on est dans les grandes entreprises. Disons la charte des PME qui est consensuelle entre les pouvoirs publics et les PME locales a déterminé que les PME auront 1 à 200 personnes employées par an et que effectivement leur chiffre d'affaires devra aller de 1 dollar à 400 000 dollars annuels et que les niveaux d'investissement devraient être inférieurs à plus ou moins 350 000 dollars américains. Aussi, il faut noter que les petites et moyennes entreprises ont beaucoup plus une gestion concentrée, très souvent sont des entreprises familiales.
Donc quand on a sa petite boutique au coin, on est une PME.
Oui, on est une petite entreprise. Il faut retenir que l'on a les micro, on a les petites et les moyennes entreprises. Et chacune de ces catégories a ses spécifications. Mais de manière globale, la tranche que je donnais tantôt incluait au même moment le micro, le petit et les moyennes entreprises.
Le club a participé à l'atelier qui a eu lieu le 12 août, dont l'objectif était de faire l'état des lieux de la PME congolaise. Vous pouvez nous faire cet état des lieux?
La situation de PME ou l'état des lieux peut être fait sur sa situation, son statut juridique ou l'histoire juridique de cette PME qui a évolué au fil des ans et que ce que l'on peut constater que cela n'a pas été jusque-là très clair parce qu'il n'y a pas à proprement parler une loi dédiée à cette PME, il n'y a pas une fiscalité dédiée à cette PME et donc on peut dire autrement que le cadre n'est pas bien posé. Dans l'entretemps, il y a foisonnement effectivement de PME dans plusieurs secteurs, les petits commerces occupant la tête parce que tout le monde veut faire du petit commerce et que, parce que c'est facile. Malheureusement, on peut dire que l'accès au financement n'est pas aussi adéquat. Il y a davantage d'efforts avec les institutions de microfinance et les banques, mais cela ne paraît pas suffisant. Il faut innover et s'assurer que les besoins de petites et moyennes entreprises sont véritablement adressés. Mais on constate aussi qu'il y a un problème de capacité au niveau de ces PME qui fait à ce qu'ils n'ont pas toujours la meilleure compétitivité que l'on aurait souhaité à ce secteur. Mais néanmoins, ce que l'on peut dire, que ce secteur, plus ou moins, nous rend de bons et loyaux services, si on peut le dire ainsi, parce que ça nous fournit un certain nombre de biens. Il suffit de regarder dans la ville de Kinshasa le nombre de petites et moyennes entreprises qui jonchent nos rues. On s'apercevra que toutes les fois que l'on veut acheter de petites choses, c'est auprès de ce PME-là que l'on recourt. Et que nombre de nos contemporains sont effectivement employés par ces PME. Et donc, aux côtés de faiblesses ou de défis qu'il y a encore à relever, on peut souligner effectivement le rôle combien important qu'il joue dans notre société.
Alors, quels seraient, selon le PNUD, les grands axes d'une bonne stratégie nationale pour la PME?
Oui, disons d'abord que le tonus est donné par le ministère, qui veut impulser une nouvelle vision par rapport à ça, et que de notre point de vue, sans prétendre anticiper à ce qui devrait être fait, parce que les échanges pourront continuer, mais de notre point de vue, il est clair que cette stratégie devra donner des réponses claires sur les statuts de PME, sur la détermination de régimes fiscaux, par exemple, sur le processus de la formalisation de la majorité d'entre elles. Ça devra répondre également aux questions de financement de ce PME, comment arriver à innover dans ce secteur et s'assurer que les PME bénéficient des appuis financiers nécessaires. La question de l'accès au marché est sortie assez clairement dans les échanges et l'idée de la sous-traitance ou de relations avec les grandes multinationales pour des échanges. Et donc ça, ce sont des questions qui sont ressorties. Mais aussi, on ne pourra pas parler de PME ou du secteur privé sans parler effectivement de questions en rapport avec le climat des affaires. Comment vont se créer le PME, quels sont les régimes que l'on devra reconnaître à ce PME, les régimes des assurances, etc. Et donc c'est autant d'éléments, autant de défis qui doivent vraiment être clarifiées par cette stratégie, de manière effectivement à permettre à ce PME de se développer dans un cadre bien tracé, orienté effectivement vers une meilleure contribution au processus de développement.
Et par rapport à ces défis, quelle va être la contribution du PNUD?
Non, la contribution du PNUD sera d'accompagner effectivement le gouvernement dans ce processus. On est disposé à apporter notre appui technique dans cet exercice. On est disposé à faire de la facilitation parce qu'en définitive, ça va être le gouvernement de la République de la RDC qui devra tracer son chemin et dire ce qu'ils voudront faire de leur petite et moyenne entreprise.
Stéphane Amani, merci.
Commençons d'abord par le Nord Kivu, où trois sites de déplacés sont en cours de fermeture selon une annonce conjointe ACR-OIM, répercutée mercredi dernier au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa. Il s'agit des sites de Lac Vert, Chacha et Lusuli. Ces sites hébergeaient au total près de 2200 personnes déplacées. L'option de fermeture a été prise en consultation avec la Commission nationale pour les réfugiés, CNR, dans le cadre de la recherche de solutions durables. La majorité de ces personnes ont opté de s'installer dans les villages voisins de leur choix et bénéficient de ces faits de quelques mesures d'accompagnement de la part du ACR. À la Monisco, cette fois à Bounia, en Ituri, 135 policiers du contingent indien décorés des médailles des Nations Unies. La cérémonie a eu lieu le mardi 29 septembre en présence des autorités administratives et policières locales. Les policiers médaillés appartiennent à l'unité de police constituée indienne et ont été récompensés pour leur contribution dans l'accomplissement du mandat de l'UNPOL, la police de la MONUSCO. Enfin, nous revenons à Kinshasa avec la MONUSCO toujours. Sa division de l'information publique a organisé vendredi dernier une conférence débat avec une centaine d'étudiants finalistes en droit et sciences politiques des plusieurs universités de la place. C'était en marge de la célébration des 70 ans d'existence de l'ONU. Le thème était l'ONU et les défis de la restauration de l'autorité de l'État en RDC.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Je le disais au sommaire, le 1er octobre marque la journée internationale des personnes âgées, c'est-à-dire les personnes de 60 ans ou plus. Cette année, cette journée a été commémorée sous les thèmes « Durabilité et ouverture aux personnes de tous les âges dans l'environnement urbain ». En marge de cet événement, le magazine des Nations Unies reçoit comme invité un expert du FNUAP RDC en la personne de Ngoy Kishimba. Ngoy Kishimba est assistant au représentant de cette agence onusienne au bureau de Kinshasa. Il s'entretient avec Honoré Misenga Kalala.
Monsieur Ngoy Kishimba, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes assistant au représentant du bureau FNUAP RDC. FNUAP, c'est le Fonds des Nations Unies pour la Population. L'ONU a décrété le 1er octobre la journée internationale des personnes âgées. D'abord, Monsieur Ngoy, comment l'ONU définit-elle la personne âgée?
Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de parler de la journée internationale des personnes âgées. Les Nations Unies définissent la personne âgée comme celle dont l'âge est de 60 ans ou plus.
Alors pourquoi alors une journée internationale des personnes âgées?
Tout est parti du constat que le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus augmente régulièrement dans le monde. En 1980, il y avait 384 millions de personnes âgées de 60 ans et plus. Aujourd'hui, ce nombre a plus que doublé pour atteindre environ 893 millions de personnes. Et d'ici 2050, il est attendu que ce nombre puisse atteindre 2,4 milliards de personnes. Et donc, l'Assemblée générale des Nations Unies a voté le 14 décembre 1990 la célébration de la Journée internationale des personnes âgées dans la perspective de sensibiliser les décideurs sur les opportunités et les défis de ces changements démographiques et aussi de promouvoir le développement d'une société pour tous les âges.
Cette année, donc en 2015, la journée est commémorée sur le thème durabilité et ouverture aux personnes de tous les âges dans l'environnement urbain. Pourquoi mettre l'accent sur l'environnement urbain?
Il faut d'abord noter que l'urbanisation rapide est un facteur important du changement démographique. Donc, les vieillissements de population et l'urbanisation rapide sont deux questions essentielles au XXIe siècle. Donc, vous avez les changements démographiques, notamment la baisse de la mortalité et la baisse de la fécondité qui découlent en fait du changement, plutôt de l'urbanisation rapide. Et on retrouve donc en ville une proportion de plus en plus importante des personnes âgées de 60 ans et plus. D'où la question qui se pose de savoir comment ces personnes cohabitent-elles avec les autres générations et quels sont les défis auxquels ces personnes sont confrontées. D'où donc la nécessité de s'interroger sur comment créer des conditions de vie viables pour tous les âges, notamment pour les jeunes et les vieux. Donc d'où les thèmes de cette année.
Conditions de vie viables pour tous les âges. Et alors, M. Ngoï, quels sont les principaux abus auxquels sont confrontées les personnes de troisième âge, selon qu'elles sont des pays développés ou des pays en développement?
Bon, on note beaucoup plus beaucoup de difficultés auxquelles sont confrontées les personnes du troisième âge dans les pays en développement. Je parlerai notamment des problèmes de survie en l'absence d'un système de retraite adéquat ou de sécurité sociale. Vous voyez, dans nos pays, d'abord, lorsqu'on travaille, en général, les niveaux de salaire sont très bas, et une fois retraité, ce qu'on reçoit à la fin, c'est vraiment dérisoire. Ça fait que les personnes du troisième âge, une fois retraitées, sont vraiment confrontées à des problèmes de survie importants. Aussi, des difficultés d'accès aux soins de santé, et aussi des risques de mortalité élevés. Vous voyez, lorsqu'on prend de l'âge, progressivement, on s'achemine vers le départ de ce monde, puisque c'est un phénomène inévitable, on finit toujours par mourir. Et donc, il y a ce risque de mortalité qui augmente avec l'âge, et donc on est confronté à cela. Ces personnes sont également confrontées à la pauvreté qui frappe les familles. J'ai parlé tout à l'heure de l'absence de sécurité sociale. Bon, dans nos sociétés africaines notamment, il y a cette conception selon laquelle c'est plutôt les enfants qui prennent en charge les aînés, une fois devenus adultes et vieux. Donc, lorsque les parents ne peuvent plus travailler, ce sont plutôt les enfants qui les prennent en charge. Or, dans un contexte de pauvreté comme celui-ci, on assiste à une situation où les jeunes, une fois terminés les études, sont confrontés au problème de chômage et n'arrivent pas du tout à trouver de l'emploi. Et donc, ce système familial qui aurait pu relayer la sécurité sociale ne fonctionne plus non plus. Donc ça fait qu'il y a une pauvreté généralisée auquel les personnes du troisième âge sont confrontées. Finalement, vous retrouvez des personnes du troisième âge qui, peut-être durant leur vie active, ont pu épargner, ont pu avoir des biens qui leur permet d'avoir un petit revenu à partir de la rente, qui finalement se retrouvent, eux, en train de prendre en charge les jeunes et même les petits-fils. Donc vous voyez que c'est aussi des difficultés auxquelles les personnes du troisième âge sont vraiment confrontées. On observe dans nos sociétés, surtout africaines, ces problèmes de conflits des générations. Vous voyez le milieu où les jeunes, où les enfants meurent, et vous avez les personnes âgées qui restent en vie, et c'est finalement ces personnes âgées qu'on taxe donc des sorcelleries. Vous voyez, il y a ces conflits des générations qui finalement opposent les jeunes et les vieux, et ça fait que, bon, ça martyrise davantage les vieux.
Oui, dans beaucoup de sociétés africaines, quand on est vieux, on est généralement considéré comme étant sorcier. Comment vous commentez ce comportement en Afrique?
Non, je pense qu'il y a une méconnaissance des causes liées à la mortalité des enfants et des jeunes. Vous voyez par exemple les milieux où sévit par exemple les épidémies, sans que les gens ne sachent qu'il y a une épidémie par exemple de choléra ou il y a une épidémie d'Ebola, puisque aujourd'hui on a une meilleure connaissance donc de ces épidémies-là. Mais lorsque ça arrive dans un environnement où on ne connaît pas très bien ces épidémies, on voit les enfants mourir. On voit les jeunes qui meurent accidentellement, on ne comprend pas, alors que tout à côté, il y a des vieux qui restent longtemps, qui sont là et qui finalement bon, traînent là. Et bon, la conception, très rapidement, bon, on a tendance à accuser ces vieux comme étant des sorciers qui finalement jettent du mauvais sort à ces jeunes, à ces enfants qui meurent.
Dans ce message de circonstance, le secrétaire général de l'ONU reconnaît que les personnes âgées sont un atout majeur de notre société et qu'elles apportent une contribution considérable au développement mondial. Je me demande de quelle manière des personnes âgées contribuent au développement des sociétés.
Il faut d'abord noter que dans le monde, nous vivons de plus en plus longtemps qu'auparavant. Et nous vivons de plus en plus longtemps et en bonne santé. Donc vous voyez par exemple, l'espérance de vie globalement dans le monde est estimée à 69 ans. Et c'est vrai que cette espérance de vie masque des disparités régionales. Vous voyez, en Afrique subsaharienne, elle est estimée à 54 ans, alors que dans les pays de l'Europe du Nord, on est au niveau de 80 ans. Donc aujourd'hui, nous vivons de plus en plus longtemps et en bonne santé. Et s'il faut prendre le cas précis de la République démocratique du Congo, l'espérance de vie est estimée à 58 ans, alors que dans les années 60, l'espérance de vie était à 41 ans. Et donc, il y a de plus en plus de réformes qui sont introduites sous le plan du travail, sous le plan économique, allant dans le sens de relever aussi l'âge à la retraite. Dans les années 80, l'âge à la retraite était de 55 ans dans certaines sociétés. Aujourd'hui, on est en train de relever ça à 60 ans. Aux Nations Unies, on est à 62, 65 ans. Et il y a même des discussions dans certains pays européens pour que ça atteigne 63 ans. Donc, en fait, vous voyez, il y a cette opportunité de pouvoir bénéficier de l'expérience des personnes âgées qui sont finalement expérimentées, qui atteignent l'âge de la maturité et qui peuvent contribuer davantage au développement économique et social. Et donc, il y a là ce qu'on appelle en démographie le second dividende démographique auquel les pays aujourd'hui en développement peuvent bénéficier. C'est vrai qu'on n'en est pas encore là, mais c'est un effort que nous devons faire. Par exemple, chez nous, au Fonds des Nations Unies pour la population, l'une de nos missions, c'est de faire un plaidoyer pour que les personnes de tous âges, notamment les jeunes et les vieux, soient associés au processus de planification du développement pour faire en sorte que leurs besoins soient intégrés dans les programmes de développement ou pour faire de manière que les problèmes d'emploi, les problèmes de retraite soient intégrés dans les programmes de développement et permettre à ce que ces pays bénéficient finalement de cette fenêtre d'opportunité liée au changement de structure par âge, donc avec ces jeunes qui ont un potentiel de pouvoir contribuer au développement, qu'il faut intégrer dans le processus de développement et ces personnes du troisième âge, qui ont de l'expérience, qui ont de la maturité, qu'il ne faudrait pas voir partir tout de suite à la retraite, mais qu'il faut plutôt intégrer, donc garder le plus longtemps possible, de façon à ce que ces personnes contribuent davantage au développement économique et social.
Monsieur Ngoï Kissimba, merci d'être venu à Radio Kapi.
C'est moi qui vous remercie.
La campagne d'inscription des enfants de 6 à 7 ans est maintenant à l'étape de l'ex-province de Bandundu. Près de 31 000 identificateurs bénévoles sont largués sur le terrain où s'est retrouvée cette semaine une délégation de l'UNICEF Kinshasa. Objectif, faire du porte-à-porte auprès de 800 ménages et récupérer des enfants en dehors de l'école. Les détails avec notre envoyé spécial à Kikwit, Jean-Pierre Elali Ikoko.
Près de 8000 écoles regroupées en 511 sites sont visées par l'opération porte-à-porte. D'après Jean-Paul Nico Luketo, chargé de l'éducation UNICEF Bandundu, 30 000 identificateurs volontaires sont attendus pour identifier puis faire scolariser les enfants en 2015. Toujours selon lui, une bonne planification permet d'obtenir des données fiables et des résultats positifs qui font sentir sur le terrain. C'est pour palper cette réalité que la délégation de l'UNICEF a visité quelques écoles ce mercredi à une cinquantaine de kilomètres de Kikwit. L'EPE Kwanga Karefou, par exemple, compte 402 élèves. Selon son directeur, M. Osus Abessokol, l'école a récupéré 7 nouveaux élèves en une semaine. Plus loin, à 45 kilomètres de Kikwit, le pays Nungu, quasiment enclavé avec ses 200 élèves, en a enregistré 10 nouveaux, toujours en une semaine. Ici comme partout ailleurs, même chapelet de problèmes, infrastructures scolaires délabrées, extrême pauvreté des parents, inégalité genre liée aux coutumes, les statuts d'orphelin, faible qualité de l'enseignement. Malgré ces difficultés, l'ex-province du Bandundu est bien l'outil en matière de scolarité. Selon Jean-Paul Nicole Keto, la province a connu un taux de fréquentation de 82% en 2014, tandis que 123 000 enfants vivant en dehors de l'école ont été récupérés. Et ceci grâce à la stratégie porte-à-porte initiée par l'UNICEF. De Kikwit, Jean-Pierre Elali Ikoko, Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Fernand Vaudissa pour la Radio-Télévision Nationale Congolaise. 15 ans après le lancement des objectifs du millénaire pour le développement, quel bilan pour la RDC?
Cette question a été posée le mercredi dernier à Florence Marshall, coordonnatrice du groupe de communication des Nations Unies en RDC. Suivez plutôt sa réponse.
En effet, un bilan va être fait, un rapport a été élaboré par le ministère du Plan, puisque c'est ce ministère qui a le lead sur toutes les activités relatives à la mise en œuvre des objectifs de développement, avec le soutien des partenaires. Comme vous le savez, les objectifs n'ont pas été atteints en RDC, aucun des 8 objectifs. Cela dit, grâce à la mise en œuvre d'un cadre d'accélération de la mise en œuvre des OMD, certains ont fait des progrès considérables, notamment dans le domaine de la santé et de l'accès à l'éducation. Mais toutes ces données sont rassemblées dans un rapport, date à confirmer, mais qui devrait être présenté le 6 octobre prochain, à la fois par le gouvernement, les autorités congolaises et le système des Nations Unies et les partenaires financiers et techniques de la RDC. Et après, une fois qu'on aura fait le bilan de ces OMD, on va pouvoir lancer l'agenda pour l'après 2015 avec les 17 objectifs de développement durable.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Mon nom est Abel Cavana. Je suis d'origine irlandaise, espagnole. J'ai grandi en France, vécu un peu au Pérou, en Amérique du Sud, ainsi qu'en Allemagne. Je suis fiancé, je me marie au mois de novembre avec une charmante jeune femme vénézuélienne du nom de Melissa. Quant à ma formation, j'ai suivi un premier master en sciences de l'information et de la communication, durant lequel j'ai inauguré les échanges bilatéraux entre la France et le Pérou. Puis j'ai réalisé un second master en cinéma documentaire, écrire le réel. Ensuite, je me suis lancé dans la réalisation documentaire. J'ai réalisé 3-4 films, travaillé comme caméraman, travaillé un peu dans le milieu de l'art contemporain, notamment avec le Frénois, le Studio National d'Art Contemporain à Lille, en France. Je suis à la Monusco depuis bientôt une année, 11 mois pour être plus précis. Mes fonctions, c'est d'écrire avec de la lumière pour cette grande organisation. En d'autres termes, je suis le photographe officiel de la Monusco. Mes tâches quotidiennes sont multiples et variées. Ça peut être couvrir une rencontre officielle entre Martin Kobler, le SRSJ, et des officiels ici à Kinshasa, ou bien le suivre sur le terrain, notamment la partie est du pays, suivre la force également, le Force Commander Santos Cruz notamment, que j'ai suivi à Beni dès mon arrivée. Mon baptême a d'ailleurs eu lieu à Beni. Mes autres tâches consistent en nourrir la base de données des archives photographiques de la MONUSCO, alimenter pôle publication pour les diffusions sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, notre compte Flickr. Un point important est la photo du jour, bien entendu. Puis monter une exposition, ce fut un grand challenge. Première exposition officielle de la MONUSCO en 15 années ici. Cette exposition a eu lieu ici à Kinshasa, à l'Halle de la Gombe. C'est un franc succès, puis l'exposition est devenue itinérante en passant par Lubumbashi, Goma et d'autres dates à venir à d'autres endroits du pays, éventuellement à New York. Mon temps libre, lorsque j'en ai, j'essaie de me reposer. Martin Kobler est une personne très dynamique, très active, très exigeante, souvent sur le terrain, beaucoup de voyages, beaucoup de travail, des nuits courtes, mais des journées fabuleuses en termes de travail, ce que me donne le pays, ce que me donne le peuple congolais également. Donc lorsque je reviens de mission, généralement je me repose. Sinon, quand j'ai du temps libre, du sport, du basketball, j'aime bien lire, j'adore la littérature, notamment le courant littéraire du Real Maravilloso, un courant littéraire latino-américain, le réalisme magique en français, avec des auteurs comme Julio Cortázar, Borges, Argueras. Je m'intéresse d'ailleurs à la littérature congolaise, elle aussi, les mathématiques congolaises que j'ai lues, Tram 83, oui, dans la ville-pays. Un grand moment de plaisir de lire ce livre. Sinon, le cinéma documentaire, comme je l'évoquais tout à l'heure, j'ai beaucoup travaillé dans la réalisation. Donc le cinéma d'auteur indépendant m'attire beaucoup. Pour la musique, moi je suis assez éclectique au niveau de la musique, tous les genres, à partir du moment que la musique est bonne, ça peut autant être de la musique électronique, expérimentale, comme de la bonne salsa latino-américaine ou du jazz congolais. Les mets préférés, j'adore la cuisine péruvienne, pour être honnête, voilà, le ceviche, l'un de mes mets préférés. Oui, la cuisine asiatique, tout ce qui est fruits de mer, poisson. Projet d'avenir, continuer au sein de cette mission, au sein de cet organisme pour quelque temps, je pense, essayer de développer développer des choses dans le domaine du train qui est en marche au niveau du multimédia, tout ce qui est interactivité, le web documentaire, les réalisations de films à 360 degrés, ce qu'on appelle plus communément la virtual reality, la réalité virtuelle, avec les casques qui vous permettent de vivre une expérience à 360 degrés. J'espère que la MONUSCO saura rebondir et me donner l'opportunité de me plonger dans ce domaine et d'essayer de développer des choses ensemble. Surtout ici au Congo, c'est un pays qui a beaucoup à offrir, sur lequel on doit et on peut communiquer énormément. Merci, au revoir.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capus.
Des événements à noter dans votre agenda de la semaine qui commence. Le 5 octobre, c'est la journée mondiale des enseignants. Le 6, ça sera la journée mondiale de l'habitat. Et le 9, la journée mondiale de la poste. Et enfin, le 11 octobre, la journée internationale de la fille.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Si vous l'avez aimé, dites merci à Honoré Missenga Kalala qui l'a coordonné sous la supervision de Benka Bamba. Nadine Soula vous l'a présenté et Alain Goyeti à la mise en onde. Merci et à la prochaine.